Oui, bonjour. Simplement pour dire que France Inter n'est pas digne d'être une radio nationale pour passer une émission telle que la vôtre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire.
Salut Daniel, c'est Jean-Philippe, Guadeloupéen, immigré en France métropolitaine à Grenoble, dans l'Hexagone. Et ben c'est magnifique, grâce au site internet, ben je peux profiter de toutes les émissions que je n'ai pas eu l'occasion d'écouter quand je suis au boulot, ben c'est super. La critique, la réflexion et surtout la dernière petite émission de San Emucho. J'adore. Bye bye.
Ça fait maintenant des mois que je te tourne autour. Je me suis brûlé les ailes à tous tes petits jeux. Et si tes airs de rustre attisent mon amour, c'est que j'aime ta viande au sucron et mielleux. Je ne crains pas ta main aux rondeurs adipeuses qui lourdement attend l'instant de me saisir. C'est à elle que je dois mes heures les plus heureuses, imposant au bourdon les ailes de mon désir. Je frissonne à l'idée de tous nos bouches à mouches, je vibre mes moustilles à ta lame aiguisée. Et si tu me fascines plus que le goût du sang, c'est parce qu'à susauter ta bidoche est plus raffinée. L'électricité moite de tes bras grassouillés, ta fraise de mignon, la viande de ta bouche. Je ne laisserai rien sur l'étal du plaisir et de ma trompe experte, j'oserai t'engloutir. J'aime regarder ta chair tremblant comme la gelée dont tu fardes tes plats. J'aime sucer ta pulpe, tandis que tout ton corps agite le couperet qui tranche avec vigueur la carne que je suppe. J'aime le bruit du couteau qui tendrement évide les hauts et bas morceaux. J'aime la vue de ta sueur qui frénétiquement s'écoule à ton échine. Et tes grands airs de brute n'éveillent pas ma peur. Je frissonne à l'idée de tous nos bouches à mouches. Je vibre et mes moustilles à ta lame aiguisée. Et si tu me fascines plus que le goût du sang, c'est parce qu'à susauter ta bidoche est plus raffinée. L'électricité moite de tes bras grassouillés, ta fraise de mignon, la viande de ta bouche. Je ne laisserai rien sur l'étal du plaisir. Et de ma trompe experte, j'oserai t'engloutir. Ça fait maintenant des mois que je me le répète, tandis que tu m'imposes tes allures de tapette. Pourtant, mon tendre gras, je ne prends pas la mouche. Et j'ose encore rêver à tous nos bouches à mouches. Si ton oreille voulait ce que mon corps lui vibre, si ta carcasse osait, tous deux nous serions libres et plus complémentaires que ne sont les amants. Car notre amour, mon grand, est de chair et de sang. J'ai pas pu m'empêcher ce parallèle entre l'émission de lundi et celle d'hier. Voilà, vive la boucherie artisanale. Et à quand une émission sur la sexualité des mouches? C'était Virginie de Dulphy.
Vive l'amour et la boucherie, voilà un très beau poème. Si c'est de vous, amis et auditrices, eh ben bravo, c'est superbe. Merci à tous pour ces messages qui nous étonnent chaque jour avec le même bonheur renouvelé. Aujourd'hui, c'est une affaire très très singulière qui va nous intéresser. J'espère vous intéresser aussi jusqu'à 16h. Et d'ici à 16h, vous ne verrez plus le cuivre de la même façon. Vous savez, ce verre de gris, ce qu'on appelle ce verre de gris, qui est très beau, qui est un verre magnifique, vous ne le verrez peut-être pas tout à fait de la même façon. Et ce sulfate, qu'on bleu aussi, hein, ce bleu vert qu'on voyait autrefois sur les vignes et sur les maisons quand les vignes courent sur les murs clairs des maisons des pays de Loire, par exemple. Eh bien, ces jolies couleurs, vous ne les verrez pas tout à fait de la même façon d'ici à 16h. D'ici à 16h, sauf que... Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, j'aurais aimé appeler pour vous annoncer que les infirmières avaient enfin obtenu la reconnaissance de leurs 3 ans et demi d'études et que grâce à la revalorisation de notre profession, nous allions enfin mettre un terme à la pénurie dramatique de soignants. Fini pour de bon les refus de patients ou les retards d'intervention faute de personnel. Malheureusement, il nous faut encore manifester pour espérer nous faire entendre dans l'intérêt, je le rappelle, des patients. Pour la 4e fois, à l'appel d'associations et de syndicats infirmiers, nous marcherons jeudi 14 juin à partir de 13h au départ du parvis de la gare Montparnasse vers le ministère de la Santé. Venez nombreux. Merci. Anne.
Salut Daniel, salut à toute l'équipe. Eh bien, fort du succès de la première du repère ici à Cervant en Haute-Savoie, nous donnons rendez-vous et nous vous donnons rendez-vous ce mardi 19 juin à 20h30 à nouveau au Bar Fleury. Le sujet abordé cette fois-ci tournera autour du fromage et de la filière lait en général. Un agriculteur élevé au lait cru, s'il vous plaît, il sera présent, ainsi qu'un affineur du terroir. Et oui, notre reblochon traditionnel rime désormais trop souvent avec industriel. Alors, venez nombreux, à 20h30, entre Tonon et Annemasse, à Cervant, au Bar Fleury, ce mardi 19 juin. Salut à vous tous.
Attention. Une personne dans le bouquin.
De l'autre côté de la rivière, ça, les choses vivent et ici ça meurt.
Absolument.
Papy.
Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Je viens pour la fameuse affaire de Madame Singer, bien sûr.
D'accord.
Salut, c'est Daniel Mermel. Ah ben, si j'y suis avec Anne Rio, la fameuse affaire de Madame Singer, bien sûr.
Flight number 2, arriving from...
Où on va? Ben, il y a un jardin, un potager. Je sais pas où j'ai laissé ma bassine. Donc aujourd'hui, au repas, il y a des pommes de terre du jardin et de la mâche cueillie sous la neige. On a des pommes de terre, par exemple, un tiers du jardin est toujours réservé aux pommes de terre. Un tiers du jardin est réservé à tout ce qui est salade, voilà. Et puis actuellement, j'ai des boutures, je prépare déjà mon jardin d'après. Au printemps, vous avez tous les tons de vert sur tous les feuillus. Après, le plus spectaculaire, à mon avis, c'est maintenant, c'est le début, les bourgeons des zones qui sont violets.
C'est la moyenne montagne ici,
déjà? C'est exactement la moyenne montagne. On est à 500 mètres d'altitude, exactement.
Sapin, rivière, il y a tout, quoi.
Ouais, des oiseaux, il y a tout pour être heureux. Sauf que... voilà.
Sauf que, c'est bien joli. L'endroit où on se trouve, c'est quelque part dans le Haut-Rhin, entre Bourbac-le-Bas et Bourbac-le-Haut, et la ferme s'appelle Niederville. C'est une bâtisse blanche du XVIIe siècle, et c'est un très bel endroit. Très bel endroit, sauf que, la femme qui parle, Anne-Marie Singer, est victime, selon elle, d'une étonnante, étrange histoire. Ses moutons dépérissent, ont dépéri les uns après les autres. Elle avait un troupeau important, 840 moutons, eh bien, ils sont quasiment tous morts. Sa maman, la maman d'Anne-Marie Singer, décédée à l'âge de 76 ans en 1992, ne serait pas morte de mort naturelle. Un rapport est en cours qui étudie les restes de cette grand-mère. Les chiens meurent sur les terres d'Anne-Marie Singer après que ses moutons aient dépéri. En fait, depuis 20 ans, Anne-Marie Singer se bat pour une contre une étonnante histoire. Elle pense, elle est certaine que tout cela est dû à du cuivre. Du cuivre disposé dans le paysage, en amont de sa maison. Et elle pense que tout cela est le résultat d'un empoisonnement. Mais qui l'aurait empoisonné? Qui aurait commis cet empoisonnement par ce moyen? Eh bien, c'est ce qu'on a eu envie de découvrir et de savoir avec Anne Rioux. C'est pas un fait divers comme un autre, celui-là, parce qu'il en dit très très long sur les profondeurs, mais alors les vraies profondeurs de ce pays et d'un passé qui se répercute. Vous allez voir, c'est une vieille histoire, cette histoire d'empoisonnement au cuivre. Anne-Marie Singer se bat depuis longtemps pour la vérité, et c'est ce qu'elle va nous expliquer, de même que les voisins, de même que différents experts viendront peu à peu au cours de cette heure nous éclairer, oui, sauf que
c'est un petit air qui fait grincer les dents, un sale refrain plein de mort, et pourtant pas une goutte de sang. Pour l'exécution facile des dessins les plus salauds, chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Chantons la cruelle idylle des assassins sans couteau.
Toi qui la connais pour l'avoir chantée mille fois déjà sans être inquiétée, méfie-toi, le vent peut tourner. Susurrer à mots choisis et te planter dans le dos la lugubre mélodie des assassins sans couteau. Des assassins sans couteau.
Quand ils ont vu cette troupe de choc qui arrive, ma mère, 75 ans, moi, 46 ans, mon fils, 21 ans, ils ont dû rigoler, ils ont dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils s'imaginent qu'ils vont aller faire, voilà, faire bouger cette ferme. Alors que la ferme, c'était la Belle au Bois Dormant, c'était vraiment une ferme endormie.
L'acte criminel est aujourd'hui clairement avéré. C'est ce que prétend l'avocat d'Anne-Marie Singer, Maître Raïs. L'acte criminel est aujourd'hui clairement avéré. L'acte est avéré, mais qui sont les assassins? L'expertise réalisée en 2004 a démontré de manière certaine un apport extérieur et volontaire de cuivre. On sait même exactement où et quand le cuivre a été déposé. Cela a été fait juste avant qu'Anne-Marie Singer ne s'installe dans la ferme. Il est donc clair qu'elle est victime d'une pratique d'empoisonnement, une pratique connue uniquement du monde agricole. Voilà, stupéfiant, étonnant pour ceux effectivement qui ne sont pas familiers de ce monde agricole. L'affaire n'est pas au bout. Pour l'instant, vous comprenez, le jugement n'est pas rendu, les expertises sont en cours, mais cette femme s'est battue très très longuement. Vous avez compris, elle s'installe dans ce paysage, dans cette France profonde, cette Alsace profonde, personnage un peu saugrenu, qui évidemment enfreint la lourdeur ancestrale, séculaire de ce paysage. On l'imagine très bien, il suffit de connaître un peu ce pays pour voir de quoi je parle. Je dis ce pays, ça pourrait très bien être un autre d'ailleurs. Et voilà, et les ennuis commencent, elle se débat depuis toutes ces années, elle nous explique comment.
Donc, on arrive le 1er mai, et disons quelques semaines après notre venue, on avait un chien, et il a été empoisonné, et il est mort empoisonné. Et ça, c'était notre accueil dans la ferme, donc déjà avec du poison. Alors, quand on est venu, c'était une friche, il y avait une friche. Et un pépiniériste nous a offert 110 rosiers. Donc on les a plantés avec ma mère, vous voyez, dans les massifs, là, tout autour. Alors on s'imaginait la beauté, ces roses en fleurs, enfin des choses... Donc on a planté ça en hiver 87-88. Au printemps, tous sont morts et les rosiers ont crevé. Et il nous en restait que 3. Et de suite, on était dans la tempête dès le début. Mais alors, on n'imaginait pas tout ça. Les moutons ont commencé à courir partout. Voilà, on comprenait pas pourquoi. Et finalement, nos moutons, ils restaient jamais sur nos pâtures. Ils allaient derrière le village. Ils montaient par le col et ils allaient à 2 kilomètres d'ici. Ils montaient tout à fait de ce côté-là, du côté est. Ils montaient sur une autre pâture. C'est-à-dire, nos moutons, ils allaient partout, sauf chez nous. À tel point que mon fils a acheté une moto cross pour rassembler les troupeaux presque tous les jours. Hein. Et moi aussi, j'ai appris à connaître tous les chemins parce qu'on cherchait les moutons. On n'arrivait pas à comprendre pourquoi les moutons étaient fous. Ils étaient comme fous. Je les vois encore froncer le nez avec l'air de dire « Mais qu'est-ce qu'elle veut qu'on mange comme herbe ?» Le pauvre, il est mort 6 mois après. Mais moi, j'ai pas compris tout ça. Simplement, je voyais à la tête des moutons que mon herbe ne leur plaisait pas. Longtemps après, j'ai découvert pourquoi ils dormaient au bord de la route et pourquoi ils partaient partout. Parce que il n'y avait pas de cuivre dans les talus.
Il n'y a pas de poison.
Il n'y a pas de poison dans les talus. Vous comprenez? Alors, j'ai fait les prélèvements au col du Chirme, à l'endroit où dormaient les moutons, il n'y avait pas de cuivre. Et à l'intérieur des terres, il y avait du cuivre. C'est qu'ils fuyaient nos pâtures. Regardez ici un autre exemple. Vous voyez les iris qui sont au bord de la route? Eh bien, plantés dans notre propriété, ils dépérissaient.
Et à 20 mètres de distance?
Mais pas à 20 mètres, c'est quoi? De l'autre côté de la rivière, l'autre rive, ils mouraient. Donc vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez à l'œil nu.
De l'autre côté de la rivière, ça, les choses vivent et ici ça meurt.
Absolument. C'est-à-dire, on n'aurait pas eu ce plaisir de la nature, ce plaisir des fleurs, ce plaisir, on n'aurait pas découvert cette histoire. Finalement, c'est ça qui nous a guidés aussi. Mais c'est longtemps après, il fallait décoder toute l'histoire. C'était ça la difficulté. J'ai mis 9 ans exactement pour comprendre que les moutons étaient empoisonnés au cuivre. Je ne sais pas si vous rendez compte ce que c'est 9 ans. 9 ans. Et 11 ans pour le prouver. 1er mai 2007, ça fait 20 ans en tout. Je me réveille vraiment aujourd'hui avec les expertises et tout que j'ai en me disant mais c'est pas possible l'histoire, c'est-à-dire comment est-ce que ces 20 ans ont pu passer. Attention.
Frédéric, l'employé de Madame Singer.
Madame, vous êtes où? Vous avez tourné les patates.
Regarde, tu tournes les patates comme ça.
Ça ne peut pas faire, madame.
Non, là, c'est pas cuit au cours.
Mais est-ce que vous habitez ici, dans la maison, dans la ferme?
Non, moi, j'habite le petit chalet à côté. Pas dans la maison principale de Madame Singer. Moi, j'habite pas dans la maison principale. Moi, j'ai mon petit chalet là-bas.
Pas avec la patronne.
Non. Et ça, il faudrait mettre au clair. Je suis ni marié avec Madame Singer, ni rien du tout. Je suis juste l'employé. Ça, il faudrait que les gens le comprennent quand même un jour.
Mais non, dans le village, ça fait toujours jaser.
Ah, dans le village, ça fait toujours jaser. Hein. Ils croyaient qu'on couche ensemble. Souvent, ma mère, à une époque, quand elle allait au marché, elle venait tous les mercredis, elle venait avec une autre version, que j'étais marié, qu'on était de nouveau divorcé, que je reste à la ferme parce que Madame Saint-Germain m'a promis qu'elle me donnait la ferme. Alors que c'est pas du tout vrai, il n'y a rien de tout ça. Hein, c'est...
Oui, alors il faudrait quand même préciser pour un des effets du cuivre, hein, vous avez une perte de libido, donc moi de ce côté-là, je suis entièrement dégagée de toute
obligation.
De toute obligation, monsieur Eltis aussi, même si on voulait, ça serait pas possible.
Mais vous, vous en avez pas marre de vous battre avec les gens du village, justement, avec tous les ragots qui sont sur vous? Parce que vous êtes du coin en plus, vous êtes du coin.
Ça me rentre dans une oreille, ça ressort par l'autre. Moi j'ai dit, si un jour de rage, je tombe sur le gars qui a mis le poison, que je suis vraiment sûr que c'est lui. En lui, je crois qu'il passe un mauvais quart d'heure. C'est pas sûr qu'il soit vivant encore au bout du quart d'heure. C'est là tout le... Mais bon, il faut avoir la preuve absolue. Ou même, je trouve, ce serait une mort trop douce pour lui. Il faudra lui faire manger du cuivre. Jusqu'au jour où il meurt dans les mêmes conditions que les moutons. Parce qu'à mon avis, les moutons devaient souffrir quand ils mouraient. C'était atroce.
Alors Frédéric, l'employé de Madame Saint-Germain confond un petit peu la justice et la vengeance, ce que ne fait pas Jacques Bourguignon, qui est le juge d'instruction, qui a décidé de faire exhumer le corps de la mère de Madame Saint-Germain. La mère s'appelle Marie-Jeanne Saint-Germain, on vient d'en parler, elle est morte en 1992 à 76 ans, et le juge d'instruction veut savoir si elle a succombé à un empoisonnement criminel au cuivre. En effet, la vieille dame est morte de perforations multiples de l'intestin, symptomatique d'une intoxication au cuivre ou au ver de gris, et une technique qui est répandue depuis le Moyen-Âge dans le monde agricole. Il fallait le savoir. Visite à ce qu'il reste du troupeau de Madame Saint-Germain.
Eh bien alors, voilà, ça c'est les deux moutons restants. On a perdu en tout 850 moutons, c'est-à-dire on n'avait pas un troupeau de 800 moutons, on avait un troupeau de 300 moutons, et finalement, chaque fois, il en mourait. Et ça, c'est les rescapés de tout le troupeau qu'on avait. Mais ils vont pas tarder à mourir non plus. Hein.
Ils ont tout le pelage qui est en train de tomber par lambeaux, là.
Oui, absolument.
Mais c'est ils perdent la laine par endroit. La laine n'est pas en bon état. Et c'est un des symptômes de l'intoxication chronique au cuivre.
Ils dépérissent, ils commencent à maigrir et à la fin, ils ont le foie cirrhosé. Les yeux sont encavés, mais là, ils n'ont pas encore les yeux encavés. Hein. Bon, c'est des mâles déjà, hein. Donc les femelles sont toutes mortes l'année dernière, les dernières femelles qu'on avait. Et je suppose que les mâles sont plus costauds, donc ils ont plus de viande et ils supportent mieux la contamination par le cuivre. Hein.
Alors, où est-ce que vous m'emmenez?
Alors, je vous emmène au point le plus haut de la parcelle, à l'endroit où on a découvert la contamination par le cuivre. Voilà, c'est exactement ici. Vous voyez bien, il y a un chemin, on est près de la forêt, on est dans une zone tout à fait tranquille et isolée. Et ici, on a trouvé une contamination jusqu'à 50 cm de profondeur, donc ils ont mis la dose à cet endroit.
Alors, est-ce que ça se voit que l'herbe est contaminée?
Ça ne se voit pas du tout. Par contre, le cuivre empêche l'herbe de pousser. Le cuivre, c'est un inhibiteur de croissance. C'est vert, mais l'herbe ne pousse pas. C'est-à-dire, elle reste comme ça. C'est un bonsaï. C'est une herbe bonsaï.
Ça se présente comment? En poudre, en graines?
Je pense que tout le monde connaît le sulfate de cuivre. Hein. C'est des sortes de cristaux qu'il suffit de mouiller. Et c'est ce qu'on utilisait dans le temps pour traiter les vignes, les arbres fruitiers, des choses comme ça. J'ai interrogé le directeur du laboratoire de géochimie de l'université de Bâle, qui est venu en personne ici, et il a dit, écoutez, à mon avis, 20 à 30 kilos suffisent pour contaminer toute la parcelle.
Et en plus, c'est donc tout en haut de votre propriété. Donc après, tout le cuivre, le poison peut descendre jusqu'à votre propriété.
Oui, mais ça, on l'a compris au bout de 9 ans, parce que chaque fois, il fallait prélever, attendre les résultats, voir ce que ça voulait dire, essayer de comprendre. Au bout de 9 ans de recherche, on a enfin découvert que c'est le cuivre qui contaminait les foies des moutons, que la terre était contaminée, qu'on a prélevé ici, et que l'herbe aussi était contaminée. Ce qui veut dire que ça a été déposé ici, peut-être quand il pleuvait, et que la pluie a emmené la pollution dans la pente.
Voilà, tout ce qui est en amont n'est pas contaminé, et la plupart des choses en aval sont contaminées.
Exactement.
Quand on dépose donc 20 kilos de sulfate de cuivre, il faut combien de temps pour que ça se répande sur tout votre terrain et jusqu'à votre maison en contrebas?
On avait posé la question à un expert et finalement il a dit 3 quarts d'heure avec une bonne pluie. 3 quarts d'heure avec une bonne pluie. Alors ici, on se trouve au sommet du réservoir.
À combien de mètres de votre maison, donc?
Disons 150 mètres de la maison. Et on a fait un prélèvement de sédiments, c'est-à-dire ce qui se dépose quand l'eau arrive dans un réservoir. Il y a toujours des fines particules qui se déposent. On a fait des dosages de cuivre et on a trouvé qu'il y avait du cuivre au fond de ce réservoir. 3 fois, 4 fois au-dessus des valeurs normales. Donc moi, je suis tombée par terre quand j'ai découvert ça. Comme on nous avait dit que c'est quelqu'un qui avait contaminé le réservoir, j'ai dit, c'est simple, on va voir si le captage est contaminé.
On va jusqu'au captage?
Oui.
Et il faut passer à travers les ronces. Hein.
Il faut avancer, c'est les ronces qui cèdent. Alors, j'ai fait venir un sourcier pour essayer de savoir à partir d'où on pouvait, enfin où il fallait creuser pour voir d'où venait la contamination. Donc il nous a dit là, à cet endroit, c'est là qu'on a trouvé la bouteille de plastique enterrée.
Là, sous ces roches, vous avez gratté sous les roches.
Et à 20 cm, on a trouvé une bouteille de plastique. Je me suis dit, mais elle est bleue, c'est encore une fois du cuivre.
Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a rempli cette bouteille de produits toxiques, de cuivre, et qui l'a mis en haut du captage, de la source.
Et donc on a commencé à faire doser, mais on n'arrivait pas parce qu'à l'époque, les laboratoires n'étaient pas équipés pour doser dans les PVC. Et l'année d'après, on est revenu avec la brigade verte, avec des gens, on a refait des prélèvements, encore une fois. Donc on a travaillé avec je sais pas combien de laboratoires. Et finalement, on a pu déterminer, encore un an après, que la bouteille, ici, qui était donnée à la gendarmerie et au juge d'instruction, la bouteille avait contenu un mélange de sel de cuivre et de pesticides à base de zinc et de manganèse. Le mélange ne correspond pas à un traitement agricole. Ce qui est important, j'ai interrogé un viticulteur immédiatement le jour où j'avais le résultat. Il m'a dit, vous savez, moi, ce que ça me fait penser? Eh bien, c'est un gars qui a tout ça devant lui et qui prend n'importe quoi et qui mélange les produits. Et comme ça, vous ne pouvez pas trouver la piste.
Donc c'est ça, plus le mélange est compliqué, plus il est difficile de le comprendre et de l'analyser.
Absolument. Quand ils ont vu l'endroit, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais il n'y avait que cet endroit pour enterrer la bouteille. Le premier expert de 2004 a dit, c'est un endroit stratégique. Voilà.
Est-ce que vous avez pu relever des empreintes digitales, par exemple?
Non, c'est pas possible. Alors, ce que j'aurais voulu faire à l'époque, c'était trouver la date, dater la bouteille. Alors, je suis allée jusqu'à Dijon pour trouver le spécialiste qui avait fait les moules pour les bouteilles. Et finalement, on a découvert que c'est une ancienne bouteille, mais impossible de dater, on n'arrive pas à avoir de date. Ça, on a la preuve, d'après les dosages de cuivre, ça a été fait avant qu'on vienne. Donc, ça a été fait pour tuer les moutons, je pense que le chef-d'œuvre a été accompli. Et ça a été, j'ai découvert en l'an 2000, j'ai compris avec tous les résultats qu'on avait, que c'est nous qui étions visés, puisqu'ils ont contaminé notre captage d'eau.
Empoisonnement par contamination au cuivre, au sulfate de cuivre. Les expertises aujourd'hui reconnaissent qu'il s'agit bel et bien de cette forme de crime parfait. L'intention criminelle est très claire, semble claire en tout cas, pour l'instant. L'affaire n'est pas close, mais beaucoup d'indications quand même sont troublantes. Et c'est une vieille coutume, oui, c'est une forme d'assassinat assez ancien. La preuve, Monsieur Picot, qui est André Picot, qui est un expert toxicochimiste, directeur de recherche au CNRS de Gif-sur-Yvette et expert notamment auprès de l'Union européenne pour les produits chimiques, et qui nous éclaire sur ce recours étonnant à un produit à des fins parfois criminelles.
Déjà, l'utilisation du cuivre, en particulier en milieu agricole, est une pratique ancestrale, hein, en particulier dans les régions viticoles. On a utilisé, par exemple, en France, ce qu'on appelle la bouillie bordelaise, qui était à base de cuivre.
Est-ce que vous avez entendu parler d'empoisonnement volontaire ?
Oui, on m'avait rapporté dans les Ardennes, près d'une ville qui est une petite ville charmante qui s'appelle Bourg-Fidèle, que des moutons étaient morts. Les agriculteurs avaient été quand même intoxiqués par vraisemblablement une désintoxication volontaire, peut-être due à des problèmes de voisinage. Hein, parce qu'on peut souvent imaginer que ce sont des problèmes dans le milieu agricole, des problèmes de voisinage qui tournent mal. Le sulfate de cuivre, tout le monde peut en acheter, et donc vous n'avez pas des problèmes, tandis que si vous faisiez les mêmes intoxications avec, moi je ne sais pas, de la nitrite d'arsénieux ou de la strychnine, c'est beaucoup plus difficile de se le procurer. Alors que du sulfate de cuivre, vous allez chez votre droguiste et on vous donne un kilo de sulfate de cuivre. Et ça, vous ne croyez pas que c'est quelque chose d'important ? De pouvoir avoir un produit que vous achetez au kilo.
Les personnes ou la personne qui a mis le cuivre ne connaissait pas peut-être les réactions des êtres humains à ce cuivre.
Ça, c'est fort possible. C'est fort possible qu'elle n'a pas mesuré exactement la portée de son geste, pensant que comme c'est un produit qui est d'usage courant, même si on en met un petit peu plus dans l'eau, ça ne sera pas gravissime. Et ça, c'est fort possible. Oui, ou qu'ils avaient une méthode pour essayer de pouvoir retirer le cuivre imprégné dans le sol. On sait, par exemple, sur des friches industrielles, où on a, par exemple, travaillé du cuivre, etc., on sait récupérer ces friches industrielles.
D'accord, donc quand Mme Singer dit qu'elle a connaissance d'une technique pour décontaminer ces sols, elle dit juste.
Oui, bien sûr.
Donc cette histoire d'empoisonnement de la ferme de Mme Singer ne vous surprend pas alors ?
Non, ça me... De tout temps qu'il y a eu des cas isolés. Bon, c'est rare, mais ça a existé, ça a eu existé. Et je pense que, bon, effectivement, ça peut encore dans certains pays exister. Hein.
Et c'est bon de le mettre sur la place publique, d'en parler en fait ?
Ah bah absolument, absolument, absolument.
Oui, pour que ça ne reste plus un secret des campagnes, quoi.
Voilà, c'est ça. Ne serait-ce que pour dissuader des futurs empoisonneurs ou empoisonneuses.
Je viens pour la fameuse affaire de Mme Singer, bien sûr.
Justement, de sortir, d'aller au contact des gens pour aller à un bistrot ou un truc comme ça. Mon ex-copine, à un moment donné, elle m'a dit, tu choisis, soit tu restes ici ou tu pars.
Frédéric, qui est l'employé de Mme Singer, après cet expert que nous venons, M. Picot, puis nous venons d'entendre, j'espère que vous n'êtes pas déjà en train de courir chez votre droguiste pour aller acheter du sulfate de cuivre pour empoisonner vos voisins, parce que on sentirait quelques responsabilités. Mais on plaisante à moitié, parce que c'est quand même quelque chose d'assez étonnant et de grave. Écoutez plutôt ce que nous dit Frédéric.
Mais vous, comment vous avez senti
pareil, hein, fatigue. Moi, j'ai perdu... Mais écoutez, j'avais 75 kilos, je suis descendu presque à 59 kilos. Moi, j'ai perdu 15 kilos. Et pourtant, je mangeais tout, exactement comme les moutons. Je mangeais tout, mais je maigrissais. Je comprenais pas pourquoi. Et j'étais crevé. Alors, pour être crevé, on était crevé. Hein.
Le cuivre est un poison corrosif. C'est-à-dire, à partir du moment où vous l'ingérez, il corrode, pour commencer, le tube digestif. Et ensuite, il va dans les différents organes. Chez moi, il va dans le foie. Chez vous, il ira dans le pancréas. Chez Frédéric, il ira dans la tête. C'est-à-dire, le cuivre agira de façon différente.
Et vous ? Le foie, surtout le foie et au niveau des reins.
Moi, j'ai moins de problèmes de reins. Moi, j'ai des problèmes de foie. Par exemple, j'avais des douleurs très longtemps sur des douleurs de l'épigastre, hein, mais douleurs à vraiment des douleurs. Donc, je crois au jour d'aujourd'hui, je suis à 17 médicaments par jour, matin, midi et soir.
Donc, c'est tout ça,
flacons qui sont ici.
Vous en prenez moins de médicaments?
J'en ai moins, oui, j'ai moins de médicaments. Madame Singer a d'autres symptômes en cours que moi, je n'ai pas.
Parce qu'elle est plus empoisonnée?
Non, elle est plus âgée.
Et par exemple, pour l'histoire de ma mère, on en revient à l'histoire de ma mère. Elle est quand même morte, elle avait une péritonite que personne n'a diagnostiquée.
Elle a été malade combien d'années?
Bon, elle n'était pas malade. Elle a d'abord subi une opération du tube des intestins.
Oui, mais comme par hasard, des intestins.
Mais bien sûr, mais c'est ça. Mais on a mis du temps pour comprendre tout ça. Et elle souffrait.
Elle a été, si je puis dire, malade et décédée en combien de temps?
En 5 ans. 5 ans de présence ici. Je me souviens, au début, elle avait dit, oh, j'ai mal dans les reins et tout. Ben, je dis, bois de l'eau. C'est pour ça, je m'en veux. Je dis, mais bois de l'eau. Ouais, mais l'eau, on nous a dit, l'eau du robinet et tout. Mais je dis, mais écoute, bois de l'eau, c'est de l'eau de source. Donc, c'est des choses, des paroles comme ça qui font que je me pardonne jamais. Je me dis que peut-être, si on avait acheté de l'eau, peut-être,
Donc, vous disiez à votre mère de boire de l'eau pour se soigner et en fait, c'était ça qui l'empoisonnait.
Bien sûr. C'est quelque chose d'horrible.
Alors pourquoi vous n'étiez pas aussi malade que votre mère?
Alors, tout ça s'explique parce que moi j'étais plus jeune. Donc par exemple Frédéric a plus de chances que moi de s'en sortir. Parce qu'il a beaucoup d'années de moins.
Et en plus la maman de Madame Singer, c'est elle qui se levait le premier.
Oui, voilà.
Donc qui consommait l'eau la première. Alors durant la nuit quand l'eau stagne et tout, moi c'est là où le cuivre se dépose bien. Donc la première qui consomme l'eau, c'est elle qui prend le plus quoi.
Oui, c'est ce qu'ils appellent aux États-Unis le syndrome du grand-père. C'est-à-dire, c'est celui qui se lève le matin. Bon, c'est toujours la personne la plus âgée qui se lève le matin, qui fait son café, etc. Et c'est elle, effectivement, qui se levait tôt le matin, qui prenait la première eau. Donc, c'est elle qui a pris le maximum, hein. Eh ben oui.
Alors, allons voir un peu le village maintenant, allons voir un peu les voisins. Allons voir d'abord le maire de Bourbac-le-Haut, Vincent Bilguer.
Ah, monsieur le maire.
Oui.
Oui, bonjour.
Quel est l'objet?
Je viens pour la fameuse affaire de Madame Singer, bien sûr.
D'accord. On ne peut pas écarter aujourd'hui encore que les animaux auraient été empoisonnés de fait, mais par un épandage de produits phytosanitaires en quantité mal maîtrisée. Et on peut pas non plus écarter aujourd'hui l'hypothèse que ce serait Madame Singer directement ou indirectement qui aurait elle-même épandu ou fait épandre par d'autres personnes des produits en concentration trop forte. C'est pas une hypothèse qui peut être écartée totalement. L'autre hypothèse serait une hypothèse, elle, donc criminelle, à savoir un malfaisant qui... en vengeance, hein, bon, donc aurait empoisonné le sol.
En fait, la ferme était en vente pour 900 000 francs de l'époque, oui. Et tout d'un coup, Madame Singer est arrivée en proposant 1,5 million.
Il y avait deux autres personnes en fait qui étaient intéressées. Madame Singer est arrivée et a, entre guillemets, coiffé tout le monde sur le poteau, non seulement en discutant pas le prix, mais voire même en surenchérissant en fait sur la mise à prix initiale.
Oui, mais ça voudrait dire que ça aurait pu exciter des jalousies?
Alors, exciter des jalousies, ça je sais pas, des insatisfactions certainement, mais malgré tout, j'arrive pas à penser que quelqu'un, à partir de ça, pourrait en vouloir attenter à la vie d'une autre personne, quoi. Mais de ce que j'ai pu entendre au niveau du village depuis des années, c'est que ce n'est pas une personne qui est forcément facile au niveau du contact et de la relation. Et que de ce fait-là, elle s'est elle-même, sinon exclue, mais du moins mise à l'écart du village, plus que les 3 kilomètres qui séparent la ferme de Niederville de la commune. Mais que ça tenait plus à la personnalité, je dirais alors, de Madame Singer, qui n'était pas non plus forcément une personnalité toujours facile. Et c'est pour ça que je dis que c'est une histoire, je trouve vraiment, non pas invraisemblable, puisqu'il y a des choses qui sont réalisées, mais pour reprendre un terme illustre, abracadabrantesque.
Alors, cette région de Bourbac et toute la région est réputée pour la pureté de son environnement et de l'eau, n'est-ce pas?
Oui, voilà. Oui. Madame Singer a élargi, si je puis dire, la contamination au cuivre ou l'idée d'empoisonnement au cuivre en disant que les captages de la commune étaient empoisonnés. Je répète que cette eau, je la bois depuis 15 ans, des gens du village la boivent depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans et personne n'est malade, ce qui démontrerait à mon avis quand même à l'évidence que l'eau n'est pas polluée. Si vous voulez me faire dire qu'on voudrait cacher des problèmes liés à des risques d'empoisonnement ou de santé publique, je vous réponds que non, c'est certainement pas la démarche qui est faite. Il n'y a pas une démarche, je dirais, mercantile qui voudrait laisser Madame Singer s'éteindre tranquillement dans sa ferme à petit feu en faisant le moins de bruit possible pour ne pas déranger le tourisme local. C'est pas le cas. Dans les différentes hypothèses qui avaient pu être évoquées, il y avait aussi un règlement de compte de où venait Madame Singer, puisqu'elle avait vécu à l'étranger, en Grèce, si je ne dis pas de bêtises, avant de venir en fait ici, et que ça pourrait être le résultat d'un règlement de compte venu de là. Je ne sais pas.
Vous croyez que ça tient debout d'une vengeance d'un Grec depuis 20 ans?
Et pourquoi pas?
Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, dit le maire de Bourbac-le-Haut. Alors effectivement, on est dans une région très touristique, et apprendre que l'eau serait polluée, que les captages de la commune seraient pollués, évidemment, ça aggrave et ça crée quelques réticences et quelques inquiétudes et quelques propos tels que ceux qui sortent de la bouche des voisins.
Bonsoir, je cherche la maison de monsieur.
Oui. Papy !
Bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger. Donc je voulais vous demander votre sentiment sur cette affaire.
Bon, c'est déjà une affaire assez triste et lamentable, ça c'est sûr. Maintenant, bon, semble tellement débile, vous n'allez pas empoisonner une ferme que vous voulez racheter, non ? On parle d'un chien, on parle de moutons, on parle d'une bonne femme. Mais on n'a jamais parlé des gens qui mangeaient les méchouis. C'est quand même bizarre.
C'est quoi cette histoire?
Elle a vendu des moutons, personne n'en a parlé, c'est quand même bizarre.
Vous voulez dire que si ces moutons avaient été empoisonnés, ils auraient empoisonné les gens qui les mangeaient, c'est ça?
Non.
À qui elle vendait ces moutons?
Des gens, des Arabes, des musulmans. Et alors, quand c'est la fête de l'Aïd, ou comment ça s'appelle, là, les gens?
Ah, c'est pas parce que, je me suis laissé dire que c'est parce que les gens ne voulaient pas vendre des moutons aux musulmans pour la fête de l'Aïd.
Délirer, ça, aussi, ça, là, ça, c'est des, je comprends pas des trucs comme ça. L'argent n'a pas d'honneur, moi, je sais pas s'il y a des moutons à vendre. Ben, c'est ceux-là qui payent le plus, alors tu vas les vendre, hein. Non, il faut pas tirer dans des trucs comme ça. Faut pas faire de racisme. Si, des fois, il y a eu le problème, parce qu'il y a des gens qui avaient des moutons qui étaient trop chers pour certains. Ça, c'est un autre problème.
Et Madame Singer avait un prix plus intéressant.
Oui, des fois, un peu plus intéressant, oui. C'est ça, hein.
Vous n'avez pas dit dans la presse, à FR3, que les problèmes de Madame Singer venaient des lignes à haute tension qui passaient sur son terrain.
J'ai dit ça, une influence. Il y a quand même eu des incidents sur des gens, sur les lignes à haute tension. On l'a vu dans les journaux. Ça peut être un an, ces trucs comme ça. Moi, j'ai dit, il y a d'autres questions peut-être à se poser. Est-ce que c'est le seul truc qui pose un problème? Ou est-ce que c'est un ensemble de trucs? Parce qu'une chose qu'il faut quand même dire, vous demandez n'importe quelle personne sensée, normale, c'est que là où l'étable est placée, c'est l'endroit le plus humide, c'est une cage métallique sous une ligne haute tension avec du plastique à l'intérieur. L'écarisseur, c'était un copain, on a travaillé ensemble dans le temps, il m'a dit, il y a un truc qui est quand même bizarre, quand il veut prendre un mouton, il lui reste la laine dans les mains. Donc c'est quand même un signe qui a été mouillé, hein.
Oui, donc ce serait un mélange de cuivre, de problèmes de cuivre, de lignes à haute tension, et puis quoi d'autre?
D'humidité, oui, et peut-être de parasitage, hein. Je suis désolé, je n'ai jamais cru qu'une personne a fait volontairement ça, je ne le croirai jamais. Ruinée comme elle est, je pense qu'elle n'a pas d'autre motif.
Bonsoir.
Un grand master.
Allez.
Ce sont des gens qui viennent acheter le fromage?
C'est notre fromage à nous, normalement. Hein. Le master, c'est de la région. Hein?
Oui, c'est ça.
Ben oui, mais...
C'est ça, d'ailleurs, qui permet de vivre, hein, parce que sinon on aurait déjà plus paysan. Hein. Financièrement, j'en ai déjà subi.
Ah, parce que ça vous coûte de l'argent?
Ah, ben, c'est ça. Ah, c'est ça qui m'énerve. Parce que moi, je subis, parce qu'il y a des gens qui viennent ici, et ils me disent pas l'empoisonneur, mais ils me disent, ah, vous avez du fromage au cuivre, mais ils n'en achètent pas, ils repartent. Je suis désolé, hein. J'en ai déjà souffert, et ma famille a déjà souffert, hein. C'est moi, toujours... je dis, ça fait une mauvaise pub, je suis désolé. La preuve, c'est que, avant, il y avait des gîtes qui marchaient bien, ben, les gîtes, ben, hein, c'est...
Vous êtes de la région?
Oui.
Vous avez un avis là-dessus ou pas? Oui.
Je connais très bien les... connaissais très bien les parents. Oui. Et elle aussi. Alors ça, c'est... Et je me rappelle une anecdote, mon frère était garde-chasse à Aspach-Léo. Des moutons qui disparaissaient. Maintenant.
Moi, j'ai jamais dit qu'elle élève mal ses moutons.
Vous voulez dire que déjà, à l'époque de la mère, elle avait des problèmes avec ses moutons?
Mais... Il n'ose pas le dire, parce que les gens ne veulent pas parler, c'est tout.
Pourquoi j'oserais pas le dire? Non, mais... Pourquoi j'ose? Mais attendez.
Tout le monde trouve bizarre, c'est tout, hein. Tout le monde fait une comparaison, que ça c'est bizarre.
Je dis seulement ce que je sais, ce qui était Aspach-Léo. Mais c'est difficile, tout ça. Non, mais non, je vais dire ce que j'avais à dire, ce qui était juste, le reste. Allez, au plaisir, hein. Merci.
Au revoir.
Alors, vous avez vu les gens du village?
Et le maire, il a bon dos parce qu'il se cache derrière les résultats de la DAS. Et il a raison d'un sens. Après tout, il est maire, il a fait des analyses d'eau, la DAS lui a dit qu'il n'y a rien, ben, il fait confiance à la DAS, parce que la DAS a quand même une certaine renommée. Donc, on lui fait confiance. Maintenant, si la DAS dit des mensonges, moi, je sais pas qui faut être pour attaquer la DAS, pour dire qu'elle donne des résultats erronés. Moi, je suis petit, moi, je fais quoi? Tout en sachant que les résultats qu'ils ont donnés, le protocole d'analyse n'est pas bon par rapport à ce qu'on cherche.
En plus, c'est instable.
Un jour, il y en a pas.
Pendant
8 jours, il peut rien y avoir. Après, il suffit qu'il y ait une pluie, un orage, il y a eu un remous dans le captage, et hop, et c'est là où ça vient.
Mais qu'est-ce qui se passe si, lorsqu'on déterre le corps de votre mère, qu'il y a des analyses et qu'on ne trouve rien?
Normalement, on doit trouver. Donc forcément, on va retrouver du cuivre soluble et toxique dans son corps. À partir de ce moment-là, on aura la première preuve scientifique de l'empoisonnement au cuivre à Bourbaclehaut.
Donc, si on a la preuve sur le corps de votre mère, oui, ça deviendra une première.
Oui, bien sûr, ça deviendra une jurisprudence. Donc, on saura doser.
Vous n'avez pas peur de mourir?
Non, j'ai pas peur de mourir. J'ai vu la mort de trop près.
Vous n'allez pas en mourir?
Je pense qu'on va pas en mourir. On va pas en mourir. Ah, j'en sais rien, finalement. Je sais pas, si la personne vient ce soir et met la dose, peut-être qu'on en mourra. Hein. Peut-être qu'un jour on sera obligé de m'autopsier aussi, c'est ce que m'avait dit un gendarme. Il dit, si jamais vous mourrez, c'est pas grave, on va vous autopsier.
Et on aura enfin la preuve.
Mais c'est ce qu'il m'a dit, on aura enfin la preuve.
Donc faites un bon... Faites mettez-y de la bonne volonté.
Mais c'est exactement ça.
Anne-Marie Saint-Gère est-elle au bout de ses peines? L'affaire est en cours. Le dénouement devrait être pour les semaines, mois, tout au plus qui viennent. Le point de vue de l'avocat d'Anne-Marie Saint-Gère, Alban Raïs.
Donc nous avons en tout cas la confirmation pure et simple aujourd'hui devant le juge d'instruction et dans le cadre de cette instruction de tout ce qui avait pu être avancé scientifiquement par Madame Saint-Gère au cours des 10 dernières années.
Vous n'avez pas prononcé les mots d'intoxication criminelle.
L'empoisonnement étant constitué à partir du moment où une personne va déverser un produit qui est susceptible d'entraîner la mort, et peu importe que la mort de l'individu soit réalisée ou non. L'infraction d'empoisonnement étant une infraction criminelle par définition. Tout ceci a déjà été balayé, on va dire, au point de vue de l'instruction, étant donné qu'on a fait toutes les vérifications possibles et inimaginables. Maintenant, dire que Madame Saint-Gère aurait procédé par inadvertance à un épandage, c'est parfaitement impossible pour plusieurs raisons. On nous avait fait référence à un produit qui avait été cité dans le cadre de l'instruction. On a fait les vérifications, il s'avère que ce produit n'a jamais été commercialisé sous ce nom, donc de toute manière, c'était pas possible que qu'on ait vu Madame Singer répandre ce type de produit. Et il y a eu surtout un autre élément qui est beaucoup plus important, à savoir qu'au niveau de son captage d'eau, et donc non plus au niveau de l'épandage de cuivre sur ses sols, donc le captage d'eau, il s'est avéré qu'il y avait une bouteille en PVC qui avait été enterrée juste à l'entrée du captage. Et donc là-dessus, je ne pense pas que Madame Singer ait eu l'idée d'enterrer une bouteille en PVC dans son captage pour contaminer son captage et souffrir de toutes les conséquences qu'on connaît aujourd'hui sur une période de 20 ans.
Mais il n'y a pas aussi le fait simplement que la contamination ait eu lieu avant son arrivée?
On ne peut pas considérer que Madame Singer ait épandu du cuivre étant donné que le cuivre a été épandu peu avant son arrivée dans les lieux. Donc elle n'y était pas encore elle-même physiquement, elle était en cours d'acquisition, donc il n'est pas possible et imaginable d'envisager Madame Singer épandant du cuivre sur une terre qui ne lui appartenait pas encore et dans laquelle elle n'habitait pas.
La personne, le ou les personnes qui seraient mises en examen risquent combien d'années de prison ?
30 ans de réclusion criminelle et perpétuité dans l'hypothèse où vous seriez dans une situation de circonstances aggravantes.
Pourquoi vous ne partez pas ?
J'ai pas l'argent en poche. J'ai rien pour partir. Je vais où ? J'ai appris à me soigner. J'ai appris à décontaminer le sol. Et je suis chez moi. Alors, n'importe qui vous empoisonne et vous prenez vos valises et vous partez. Non, mais alors, on va rester au plus fort empoisonneur. J'ai de la détermination. Je n'ai pas de haine. Je n'ai que de la détermination à comprendre. À la fin, bien sûr, on arrivera à l'auteur.
Mais donc, la personne, si elle a empoisonné la terre, ça voudrait dire qu'elle est au courant qu'on peut la décontaminer.
J'en suis persuadée. J'ai trouvé sur Internet la façon de décontaminer les sols. Et il a éclaté de rire. Je lui expliquais que les sols sont contaminés avec un produit agricole et que j'ai trouvé le moyen de les décontaminer avec des produits agricoles. Ça voulait bien dire que la personne qui a contaminé est un exploitant agricole ou a accès aux produits agricoles et qui sait comment décontaminer.
Est-ce que vous l'avez essayé, cette méthode ?
Bien sûr. Et j'ai montré aux experts les endroits où je l'ai essayé. Bien sûr.
Ça a marché, ça a fonctionné.
À l'œil, ça a fonctionné. Donc, si vous plantez un arbuste, il va pousser de ça en un an, ou pas du tout. Vous mettez ce produit, il pousse d'un mètre, il pousse d'un mètre cinquante. Vous le voyez à l'œil.
Puisque vous savez comment décontaminer votre sol, qu'est-ce que vous attendez pour le faire ?
Je dois avoir actuellement 20 euros en poche. 20 euros ne suffisent pas pour acheter les engrais et ce qu'il me faut. Mais il me manque de l'argent pour acheter les produits, il me manque les machines pour les épandre, voilà. Ce serait fait en une demi-journée.
Et le résultat, en combien de temps ?
Le résultat, à mon avis, il faut au moins 2 ans, 3 ans pour avoir un résultat valable.
Comment vous imaginez le futur après ?
Ben, l'avenir, c'est redémarrer une exploitation.
On
n'est pas obligé de refaire expressément du mouton. Faire juste quelques moutons pour entretenir les terres, mais après on peut développer le tourisme. Parce que de toute façon, l'agriculture, au rythme où elle va, elle est en train de se casser la gueule. Et en 2013, quand ils vont couper les subventions et tout, moi, je sais pas ce qu'ils vont faire les paysans. On est mal barré. Parce qu'actuellement, les paysans, ils vivent que de subventions et des primes. Ils vivent plus de leurs produits. Et le jour où on coupe les subventions et les primes, ah ben, je vous dis pas, il y a beaucoup de paysans qui vont se casser la figure.
Comment on peut retrouver un auteur ?
C'est beaucoup plus facile. Je pense que si on a la preuve absolue de l'empoisonnement, donc avec tout ce que le juge est en train de faire, les auteurs, c'est une histoire de 3 jours. Ben oui.
Merci à tous. Merci à Madame Singer, à Frédéric, à Monsieur Picot, à Maître Raïs, ainsi qu'à Monsieur Bilger, le maire de Bourbaclos. C'était un reportage d'Anne Rioux. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission de la Bassigis. Vous pouvez réécouter cette émission ainsi que sur le site labas.org, la-bas.org. À la technique aujourd'hui, Dimitri Gronoff et Éric Maviel. C'est Yann Chouquet et Coyen Guyenne qui ont réalisé cette émission, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Fidèle au poste est à côté du répondeur et attend vos messages au 01 56 40 37 37.